Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, je vous propose de réécouter notre émission sur nos assiettes et celles de nos voisins. Comment tourne le monde? Comment ces produits stars ont voyagé au fil des décennies? Le coca, la bière, le yaourt, le bouillon cube, le guacamole, la baguette, autant de produits alimentaires aux origines variées qui se retrouvent sur les tables, dans les placards du monde entier. Ils racontent la mondialisation des échanges commerciaux, des mouvements migratoires, pourquoi mange-t-on autant de kebabs à Berlin, de sushis à Paris ou même à São Paulo d'ailleurs? Comment la mondialisation a transformé nos assiettes? Et quelles sont les limites aussi de ces métissages alimentaires au risque de perdre le goût, l'appétit ou sa propre identité alimentaire? Au risque aussi d'oublier l'essentiel. Aujourd'hui, près d'un habitant sur 10 souffre de la faim dans le monde et c'est un chiffre en forte augmentation depuis 2 ans selon les Nations Unies.
8 milliards de voisins.
Et de voisines.
8 milliards de voisins, on est ensemble.
Bonjour Pierre Saint-Garavelou.
Bonjour.
Vous êtes historien au King's College de Londres et puis aussi à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Avec nous également Sylvain Venère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien à l'université Grenoble-Alpes et vous êtes en ce moment à New York où vous enseignez une épicerie mondiale à elle seule que cette capitale économique américaine.
Ah oui, une épicerie mondiale un peu partout, dans la rue, dans les restaurants et même dans certains lieux particuliers. Je ne sais pas si vous connaissez le Chelsea Market qui se trouve sur la 9e avenue
oui.
Et qui rassemble à peu près tout ce qu'on peut imaginer comme produits alimentaires qu'on peut acheter ou consommer sur place. Vous avez toute la nourriture, non seulement des États-Unis, d'Europe, d'Amérique latine, mais aussi
du monde
d'Afrique,
entier.
D'Asie, c'est étonnant. Ouais.
De la charcuterie corse, presque aussi facilement trouvable que du ketchup. Tous les deux, en tout cas, vous publiez un ouvrage collectif extrêmement riche, près de 90 produits ou plats racontés par des historiens, l'épicerie du monde, la mondialisation par les produits alimentaires du 18e siècle à nos jours, c'est paru chez Fayard. Ça va de l'eau gazeuse au couscous en passant par le lait concentré sucré, la margarine, le yaourt, le ketchup, la tieké, les frites, le houmous, la purée de pois chiches, l'huile d'olive. Nous serons aussi en ligne avec nos correspondants à Mexico pour évoquer le succès de l'avocat. Et puis à Séoul aussi, où se fabrique et s'exporte le concept de la K-food, c'est-à-dire la Korean food, la cuisine coréenne, un peu calquée sur le modèle de la K-pop, la musique coréenne, parce que la cuisine fait aussi maintenant partie du soft power.
Chewing-gum au goût très frais.
Allez, chewing-gum.
Fraîcheur de pays.
Café au lait de Nescafé, ça change la vie.
Parce qu'il est très riche en Arabica, Maxwell qualité filtre, ce n'est pas la peine de rajouter.
Le lait concentré sucré, c'est une pure gourmandise.
Ketchup Heinz, le goût de l'Amérique.
Mais à chaque fois, c'est pareil avec McCain. Ces frites-là, il faut que j'en parle, que j'en parle, que j'en parle.
Savez-vous pourquoi nos pizzas sont si bonnes?
Non. Non, mais une autre pizza par contre. La même.
Ça roule.
Merci beaucoup.
Bon, un kebab, c'est assez simple. Hein. C'est un sandwich, des frites sur un plateau avec un peu de sauce.
Ouais, ben, je pense qu'il nous reste rien qu'une chose à faire.
Ah, une bonne bière.
Il a gagné! Bravo!
Quand un champion dépense son énergie, il réclame Nutella. Et quand une championne dépense toute son énergie, elle réclame Nutella.
Pierre Saint-Garavelou, depuis des années, on dit que le plat préféré des Français, c'est le couscous. Alors finalement, depuis quand les gens mangent des choses qui n'ont pas été élaborées directement sur leur territoire? À quel moment l'humanité est sortie de juste « je sors de chez moi, je vais me faire une soupe avec ce que j'ai cueilli au jardin et avec un peu de chance, il y aura un peu de viande, un peu de poisson, mais c'est même pas sûr ». À quel moment on a quitté cette situation de grande précarité?
Disons que c'est une question compliquée parce que ça dépend des endroits dans le monde. On peut considérer que dans un certain nombre de régions de la planète, les habitants, les paysans, les cultivateurs continuent à fonctionner selon la culture vivrière et donc à consommer ce qu'ils produisent. Mais disons que on observe à l'échelle du monde, à partir de la seconde moitié du 19e siècle, un phénomène d'industrialisation de l'alimentation, avec une standardisation croissante des produits, l'invention des emballages, de nouvelles formes de conservation, l'invention des supermarchés ensuite qui vont se développer d'abord aux États-Unis au début du 20e, puis partout dans le monde dans la deuxième moitié du 20e siècle. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à un point d'aboutissement de ce processus qui fait que la plupart du temps, les populations urbaines consomment des aliments ou des produits qui viennent d'ailleurs, qui ont été préparés par d'autres. Et c'est un phénomène, au fond, qui commence, disons, se généralise à partir de la fin du 19e, mais qui est assez ancien, puisque si on pense à l'origine de la pizza, par exemple, la pizza qui est l'exemple type et fascinant de la cuisine du pauvre, la pizza se développe, est inventée à Naples, c'est bien connu, pour assouvir les besoins d'un nouveau groupe social qui est celui des travailleurs pauvres qui habitent dans des logements très exigus dans cette ville qui devient de plus en plus importante de Naples et des appartements dans lesquels les travailleurs ne peuvent pas préparer eux-mêmes à manger. Ils ne peuvent pas préparer parce qu'ils n'ont pas la place et puis parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils travaillent quasiment tout le temps. Et donc, ils doivent descendre dans la rue. C'est la naissance de la street food en Europe, si je puis dire, ou la renaissance.
On mange avec les doigts.
On mange avec les doigts et ce sont d'autres qui la préparent. Et c'est à l'origine de nouvelles formes aussi de sociabilité populaire.
Alors, ce que j'ai découvert dans votre livre, d'ailleurs, c'est que la pizza, elle est tricolore et qu'elle est exactement à l'image du drapeau italien. Il y a le rouge, le vert et le blanc. Le rouge, la tomate. Le vert, le basilic. Et le blanc, la mozzarella.
Exactement.
Ça, je ne savais pas.
C'est un mythe, disons, qui participe de cette histoire, de cette grande histoire légende dorée de la pizza qui veut que la margarita, l'une des pizzas les plus célèbres, ait été inventée en l'honneur de la reine Marguerite.
C'est de Savoie.
De Savoie, et ce qui a gommé par là même cette origine populaire de la pizza napolitaine dont on parlait à l'instant.
Ouais. Alors, dans cette industrialisation de la cuisine, de l'alimentation, il y a aussi, bien sûr, le rôle du transport maritime. C'est qu'il ne suffit pas seulement de fabriquer vite et beaucoup. Il faut pouvoir transporter, il faut des frettes, il faut des cargos. Parfois, il y a des trajets, d'ailleurs, où on revient à vide et peut-être qu'on va en profiter pour ramener des produits auxquels on n'aurait pas pensé, mais qui permettent de remplir les cargos. Ce transport, ça a joué aussi un rôle important ou pas dans la mondialisation de l'alimentation, vous diriez, Pierre Saint-Garavello ?
C'est essentiel et en fait, on s'aperçoit, nous sommes aperçus avec Sylvain Venner lors de la préparation de cet ouvrage, que en fait, les aliments circulent énormément, parce qu'on parlait de la culture de terroir qui subsiste encore aujourd'hui, mais qui est un peu un mythe, parce que la plupart des aliments proviennent d'ailleurs et non pas de son jardin. Et donc, ces circuits commerciaux, bien avant le 19e siècle, ont permis aux aliments de voyager sur de très longues distances et on s'est aperçu, et c'était bien connu auparavant, bien documenté, que la conquête des Amériques à partir de la extrême fin du 15e et au 16e siècle a permis à un grand nombre, notamment de légumes et de fruits dont on pourra parler aujourd'hui, de voyager, être réappropriés en Europe, mais aussi en Asie, puisque les conquistadors espagnols, puis les colonisateurs, donc portugais, etc., ont aussi transporté ces aliments, non seulement en Europe, mais aussi dans leurs autres colonies, en Afrique et en Asie.
Ouais. Alors, si on reprend des boissons aussi, puisqu'on parle pas mal de boissons dans votre livre, le coca, Sylvain Venner, le coca, au départ, il est fabriqué grâce à de la canne à sucre importée de Cuba vers les États-Unis. C'est évidemment une invention américaine, c'est pas la peine de le repréciser. Et d'ailleurs, vous citez dans votre livre le journal d'Atlanta de 1886 qui parle d'un nouveau produit qui arrive, Coca-Cola, délicieux, rafraîchissant, stimulant, revigorant. La nouvelle et populaire fontaine à soda contient les qualités de la merveilleuse plante de coca et de la célèbre noix de cola. Et on la trouve à la pharmacie Jacob du docteur Pemberton, qui d'ailleurs était un médecin, vous le précisez, légèrement sous l'emprise de la cocaïne. Mais ça, c'est un détail, Sylvain Venner.
Oui, bien sûr, c'est vrai aussi du Pepsi. D'ailleurs, il faut d'ailleurs rappeler que ces boissons à base de coca, elles s'inspirent d'un produit français qui était le vin Mariani à base de coca. et que c'est progressivement qu'on a fait disparaître, avant même 1886, hein, on avait ce vin Mariani à base de coca qui était importé aux États-Unis, puis après aux États-Unis on le vendait comme du vin français à base de coca, puis on a fait disparaître l'appellation de vin et créer le Coca-Cola. Mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez précédemment, oui c'est important d'avoir une histoire un tout petit peu plus longue dans le temps que celle qu'on va imaginer commencer à la fin du 19e siècle. C'est d'ailleurs pour ça que dans le livre, on est remonté un peu plus en amont, hein, en théorie, au 18e siècle, et puis même parfois bien plus haut, parce que, comme le disait Pierre Saint-Garavelou tout à l'heure, les produits alimentaires, enfin cette grande circulation des produits alimentaires, ça a commencé par une circulation des matières premières, en quelque sorte, hein, des graines, des plantes, des légumes, même pour partie de la viande, bon, ça on pourra en reparler, mais surtout pour ce qui est des légumes et des fruits. Si la pizza est inventée à Naples, il faut quand même pas oublier que pour qu'elle soit inventée à Naples, il faut d'abord qu'il y ait de la tomate, et que cette tomate, elle a dû venir progressivement à partir du début du XVIe siècle dans la péninsule ibérique, puis ensuite en Italie, être acclimatée, et qu'au bout d'un certain temps seulement, on cesse d'utiliser les tomates comme un condiment pour en fabriquer cette sauce. Donc là, on est plutôt au tout début du 19e siècle, avant ensuite que ça puisse devenir quelque chose de véritablement industriel. Donc il y a en quelque sorte deux mondialisations successives, disons, celle qu'on considère traditionnellement liée à la découverte des Amériques, et puis cette autre mondialisation qui apparaît, disons, dans la seconde moitié du 18e siècle et qui va ensuite aller s'accélérant, qui est liée à l'industrialisation et à l'accélération des transports.
Et l'accélération des transports, et puis il y a aussi tout un aspect quand même que vous montrez bien au fil des différents produits que vous détaillez, l'innovation par exemple sur de la conservation, par exemple aux origines du coca, on va aussi revenir à l'eau gazeuse qui en Angleterre, il n'y avait pas de source naturelle d'eau gazeuse, contrairement à la France, à l'Allemagne, et à partir du moment où on trouve le processus pour recréer artificiellement de l'eau gazeuse, bah, évidemment ça vous la porte à plein de sodas différents. C'est la même chose pour le lait concentré sucré aussi, Pierre Saint-Garavelou, hein, qui fait à chaque fois, en fait, ça fait l'objet d'un brevet. Là, il y a un brevet en 1856 pour le lait concentré sucré. C'était pas évident de parvenir à retirer de l'eau du lait, de retirer la moitié d'eau pour que ça devienne du lait concentré, et après on va rajouter du sucre. C'est pas si simple au départ au 19e siècle.
Oui, on s'aperçoit qu'en fait, l'histoire de l'alimentation à partir du milieu du 19e siècle est aussi faite d'une série d'innovations qui vont se mettre au service de l'industrialisation et de la commercialisation massive, production en série de ces produits alimentaires. Et c'est vrai que ces innovations, en fait, sont une condition sine qua non à ce moment-là de la mondialisation de cette production. Si on prend l'exemple que vous venez d'évoquer du Coca-Cola, il s'agit à la fois d'une innovation dans la fabrication, la recette de cette boisson gazeuse, qui est toujours inconnue d'ailleurs aujourd'hui, et puis aussi dans le mode de commercialisation. Et ça, c'est très important parce que
les circuits de distribution,
les dirigeants,
les
dirigeants de Coca-Cola, très rapidement, dès l'extrême fin du 19e siècle, eh bien, pensent l'ensemble de la chaîne, pensent le marketing de leurs produits avec la publicité. Ils pensent, par exemple, ils habillent tous les livreurs aux couleurs de Coca-Cola. Ils décorent les camions de livraison, et puis ils vont penser aussi le merchandising. C'est eux qui vont inventer, par exemple, l'idée que eh bien, vous pourriez avoir, et c'est encore le cas aujourd'hui, des slips ornés d'une bouteille de Coca-Cola, des porte-clés, etc. Et donc, Coca-Cola devient une véritable culture, et ils ne s'arrêtent pas là. C'est-à-dire qu'ils repensent aussi le packaging. Ils inventent en 1916 la fameuse bouteille de Coca-Cola. Alors, évidemment, elle fait partie de notre vie quotidienne, cette bouteille de Coca-Cola, mais c'est une véritable révolution, puisqu'il s'agit d'une bouteille unique. Donc 1916, une bouteille cannelée qui s'inspire d'une robe en fourreau qui va varier légèrement, mais il conserve toujours cette identité, cette forme visuelle. Et selon son concepteur, c'est une bouteille que l'on doit reconnaître dans le noir. Même un aveugle peut reconnaître avec le logo gravé et la forme unique de la bouteille ce produit. Et donc Coca-Cola, c'est vraiment une des entreprises paradigmatiques, parce qu'ils vont développer dans tous les domaines toute une série d'innovations extrêmement, avec un marketing offensif, et puis en s'associant à l'État états-unien. C'est ça qui est là. Quand on parle d'impérialisme commercial, eh bien là, on a un exemple très, très éloquent de ce que peut faire une entreprise avec un produit unique qui va s'appuyer sur un certain nombre d'événements importants du XXe siècle pour diffuser son produit dans le monde entier.
Alors, on ne va pas parler non plus que des produits américains, même si c'est vrai qu'on retrouve beaucoup d'innovations qui viennent du monde anglo-saxon. Mais moi, j'ai découvert avec votre article, Sylvain Venner, sur la charcuterie, que pendant longtemps, la charcuterie est à l'origine d'intoxications absolument épouvantables et que quand on invente, on met au point les nitrates qui sont des conservateurs, on sort quand même de tous ces accidents, nitrates qui aujourd'hui sont accusés d'être à l'origine de cancers digestifs. Donc finalement, c'est le serpent qui se mord la queue.
Oui, oui, d'autant que en fait, il faudrait raconter l'histoire presque à l'envers. C'est-à-dire, c'est parce que actuellement, il y a ce débat autour des sels nitrités dans la charcuterie, que les industriels de la charcuterie prétendent que si on les enlevait, ça créerait des épidémies de botulisme, parce que effectivement, une charcuterie qui est mal préparée, elle peut transmettre la toxine botulique aux consommateurs. C'est le principal argument pour l'existence des sels nitrités. En réalité, une charcuterie qui est bien préparée n'a pas besoin de sels nitrités. En fait, le vrai enjeu des charcuteries industrielles, il n'est pas là. D'ailleurs, cette histoire, elle est en réalité au départ plutôt américaine. Elle se passe autour de Cincinnati, elle se passe autour de Chicago, dans ce monde qu'on appelle celui des meat packers, c'est-à-dire les emballeurs de viande, en quelque sorte. De la même façon qu'on va emballer le Coca-Cola, ça rejoint cette histoire.
Et à partir du moment où on peut emballer, conserver, et ben ça circule à l'infini, finalement, autour de la planète.
Ça circule beaucoup. Alors, les charcuteries, elles circulaient déjà sous forme de salaison dans les grands ports, pour les voyages au long cours, qui va changer à partir de la seconde moitié du 19e siècle, c'est l'échelle. Quand on va pouvoir faire des charcuteries d'abord en tout temps, parce que on va aussi avoir des systèmes de réfrigération qui vont permettre de faire des salaisons hors de la période d'hiver, et ensuite de pouvoir expédier ça à l'autre bout du monde, à condition d'avoir préalablement mis des sels nitrités dans la viande. Mais ces sels nitrités, ils ont une autre caractéristique à laquelle on ne pense pas toujours, à laquelle les industriels, eux, pensent continuellement, c'est que ça accélère la formation de la charcuterie. C'est-à-dire cette couleur rose ou cette couleur rouge que prend la viande en salaison, on peut l'obtenir en quelques semaines grâce aux sels nitrités, alors qu'il faut plusieurs mois pour l'obtenir avec les procédés anciens.
Donc ça permet de gagner beaucoup plus d'argent, beaucoup plus vite.
Eh bien évidemment, le temps c'est de l'argent, ça c'est ce que dit Benjamin Franklin dès la fin du XVIIIe siècle, et c'est majeur dans l'histoire qu'on raconte.
Alors au-delà de se nourrir pour ne pas mourir, parce qu'il ne faut pas oublier que l'alimentation c'est d'abord notre survie, hein, mais vous rappelez aussi les trois plaisirs de l'alimentation qui sont décrits par le philosophe Roland Barthes, la convivialité, le plaisir de manger ensemble, la réminiscence, hein, cette façon dont les aliments nous permettent de nous souvenir des goûts de notre enfance, par exemple, d'un pays où on aurait vécu. Et puis, la nouveauté, on va en discuter.
Dans un saladier, vous versez du quinoa cuit, des concombres, des tomates cerises, des oignons rouges, des olives, des tomates séchées, de la feta et du basilic. Vous ajoutez ensuite votre vinaigrette préférée. Moi, j'ai fait un mélange d'huile d'olive, de vinaigre, de citron, moutarde et herbes de Provence.
Voilà, ça, ce sont des vidéos, on en trouve des millions et des millions, notamment sur TikTok, hein, où il y a eu un hashtag cet été, le hashtag Summerfood, qui a fait plus de 500 millions de vues, et où tous les internautes s'échangeaient tout autour de la planète des dizaines et des dizaines de milliers de recettes qui n'avaient rien à voir parfois avec leur alimentation. Ce qui veut dire que voilà, ce fameux quinoa, il peut voyager partout. Alors bien sûr, si on a un minimum de pouvoir d'achat, mais avant les réseaux sociaux, avant TikTok, il y avait la publicité qui a joué un rôle déterminant. Et encore avant, comment ces aliments pouvaient être découverts par la population et le citoyen lambda, Pierre Saint-Garavello?
Alors disons que c'est un processus souvent long et complexe parce qu'il y a toute une série de détours, d'étapes et que vraiment ça dépend aussi de l'aliment ou de la spécialité concernée. Mais disons que il y a un certain nombre de facteurs qui accélèrent la circulation de ces aliments et de ces spécialités alimentaires, comme par exemple les migrations, les guerres, et évidemment la colonisation. Alors, il y a un certain nombre d'aliments qui sont devenus d'une certaine manière identitaires du continent africain. Si on pense au manioc, Le manioc, si vous demandez à des habitants d'ailleurs du monde entier, pas seulement du continent africain, ils vous répondront que eh bien c'est le tubercule par excellence de l'Afrique. Bon, alors ce manioc, on a oublié eh bien qu'il provient de l'Amérique. Et c'est dès le XVIe siècle que eh bien des Portugais, des colonisateurs portugais, transportent le manioc et l'acclimatent avec des paysans africains, d'Afrique centrale d'abord, dès le XVIe siècle, le manioc, qui en fait correspond très très bien aux conditions locales, au goût local également, qui est très facile à cultiver, pas cher à produire, pas onéreux non plus à acheter.
Qui donne rapidement une sensation de satiété pour des gens qui ont un travail pénible, qui travaillent la terre.
Exactement, qui est très nourrissant avec des qualités nutritives remarquables. Et donc, il va concurrencer l'igname et d'autres tubercules d'Afrique très rapidement et se diffuser d'Afrique centrale vers tout le continent au point d'inspirer parfois des recettes alors qui vont être les plats nationaux comme l'attiéké en Côte d'Ivoire.
Mais il y a aussi les expositions universelles au 19e siècle, mais quand les gens vont à une exposition universelle en Europe et qu'ils goûtent du roquefort, des huîtres d'élevage, des loukoums, des cornflakes qui arrivent là des États-Unis, c'est les premiers réflexes, c'est quoi? C'est Burke? C'est au contraire, oh, c'est rigolo, je connaissais pas ce goût. Comment on fait pour qu'ensuite ce goût-là devienne banal, intégré à la vie quotidienne des gens? Sylvain Venner.
Bien sûr. Il y a une dimension à laquelle il faut penser, c'est qu'une grande partie de ces nouveaux ingrédients, les cornflakes par exemple, mais c'est le cas du tapioca aussi, qui est fabriqué également à base de manioc, ou d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit là, sont souvent présentés à la fois comme des aliments goûteux, mais aussi comme bons pour la santé. Et toute cette histoire des brevets, le lait concentré par exemple, dont vous parliez tout à l'heure, toute cette histoire des brevets, c'est une histoire qui est à mi-chemin entre une histoire qui serait une histoire du goût, une histoire de la gastronomie et une histoire de la santé. Et de la même façon que le Coca-Cola, au départ, était inventé par un pharmacien et on présentait ses vertus énergétiques. Ça, c'est extrêmement important dans la façon dont on acclimate des nouveautés.
En tout cas, si c'est pas bon pour la santé, c'est au moins ça va vous rendre fort, ça va vous rendre dynamique, etc. Non, Pierre Saint-Garnier.
Oui, alors la question que vous posez est essentielle. Alors, certes, Sylvain Venner a entièrement raison. La plupart des produits, y compris ceux qui sont aujourd'hui reconnus comme nocifs, étaient présentés comme très bons pour la santé. On a parlé du Coca-Cola, mais c'est le cas de la plupart des alcools, le whisky, le gin, etc. étaient considérés comme des traitements à l'origine médicinaux. Mais je crois que il y a un autre élément important pour expliquer le succès de plats ou d'aliments qui proviennent d'ailleurs dans d'autres régions du monde, c'est au fond la capacité extraordinaire des différentes populations du globe à se réapproprier les plats, les aliments, à les réinventer.
Ouais. Alors, à les modifier énormément.
Et donc il y a d'innombrables exemples. Si on prend le cas de plats de spécialités emblématiques comme le curry, tout le monde considère que le curry, à juste titre, est l'un des plats nationaux, si l'on peut dire, de l'Union indienne. Ce curry est devenu le plat le plus populaire du Japon, tout simplement
ça,
en étant transformé, adouci. Les Japonais ont enlevé ce goût très pimenté.
Donc on va mettre de la sauce de soja dans le curry indien.
On mélange avec d'autres épices qui adoucissent le curry. Et ce curry, par exemple, devient aussi, avec le chicken tikka, l'un des plats favoris des Britanniques. Eh bien, parce que des chefs indiens et pakistanais, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vont ajouter du yaourt dans les épices utilisées traditionnellement. On pourrait comme cela donner d'innombrables exemples. L'ajout de la merguez au couscous maghrébin par notamment dans les restaurants français, disons à partir des années 70 en France. Voilà, c'est cette capacité de transformer chaque plat, chaque spécialité, d'agrémenter différemment des aliments qui explique
pour faire aimer
le succès ou l'insuccès exactement de ces différents aliments.
Et vous citiez justement le curry indien qui est devenu un des plats les plus populaires au Japon, ce qui montre aussi qu'il n'y a pas que les échanges nord-sud de l'Occident qui imposent ses goûts, notamment les États-Unis au reste de la planète, mais il y a aussi des échanges sud-sud et puis bien sûr des échanges sud-nord. On va en reparler. Vous restez avec nous, on continue de voyager dans cette gigantesque épicerie du monde et dans son histoire avec vous, Pierre Singaravello et Sylvain Venère. Dans quelques instants, on regardera de très près le succès de la K-Food, sorte de fast-food coréen qui s'exporte très très bien aussi. Et puis les délires aussi sur l'avocat venu du Mexique qui inspire même la chanteuse italienne Annalisa, Avocado Toast. Il cielo questa notte un Van Gogh, lui sembra un avocado toast, una sparatoria di rose nel letto, tardi per uscire per dormire presto, tra so con l'anima in un Dropbox. Facciamo la guerra per fare la pace. Cosa vuol dire amo? Forse non ci capiamo. Apparecchiati su questo divano con il coltello e le bacchette in mano. Fai il bravo, siamo in Yang, ma all'incontrario. Siamo sotto sopra, siamo odi e t'amo. Tardi per uscire, per dormire presto. Tra so con l'anima in un Dropbox. Io voglio colmare il vuoto che ho. Con i piedi nudi sopra la brace. Facciamo la guerra per fare la pace. Cosa vuol dire amo? Forse non ci capiamo. Difficile non rispondere, in bella vista nascondere un cuore pieno di polvere. Quello che posso farti non lo sai, e quando l'hai capito bye bye. Ci andiamo domani a dormire presto. Tra so con l'anima in un Dropbox. Io voglio colmare il vuoto che ho. Con i piedi nudi sopra la brace. Facciamo la guerra per fare la pace.
8 milliards de voisins et de voisines.
Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin.
Direction maintenant le Mexique aux sources de l'avocat, puisque nous parlons de cette épicerie mondiale, de cette alimentation mondialisée. Bonjour Gwendolina Duval.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante de RFI à Mexico. L'avocat était un produit de luxe il y a 20 ans en Europe et aujourd'hui on le retrouve dans de nombreuses recettes du monde entier sous forme de guacamole ou encore du fameux avocado toast.
Pour commencer, j'ouvre mon avocat en deux, je retire le noyau, j'enlève la peau et je le snack dans une poêle très chaude.
Évidemment, on va avoir besoin d'un avocat.
Il est là. Alors, je sais, l'avocat pour l'écologie, c'est vraiment une catastrophe.
Je retourne mes avocats et je les mets dans un bol. J'y ajoute un demi-oignon rouge taillé finement, de la coriandre, de l'huile d'olive.
Étape hyper importante, les épices.
Un peu de piment de cayenne, de la tomate cerise taillée en petits morceaux et pour finir, le jus d'un citron vert.
Du fromage Philadelphia, hyper important.
J'ai choisi de prendre du boursin. Vous pouvez très bien prendre du fromage frais, y a pas de souci. Et enfin, un peu de saumon.
J'étale délicatement sur mon toast et j'y ajoute un œuf poché.
Donc voilà ce que ça donne lorsque c'est terminé.
Et là, comme les vrais cuisiniers disent, déguster. C'est trop bon.
Tout ce qu'on peut faire avec un avocat. C'est un fruit au départ qui est très nutritif, qui est consommé depuis en fait des millénaires, complètement intégré à l'alimentation. l'alimentation courante. Il faut dire aussi que les prix ont beaucoup baissé. Il est même considéré comme le beurre du pauvre. Gwendolina Duval, racontez-nous comment l'avocat découvert, importé par les Espagnols au XVIe siècle, avec évidemment la découverte du continent américain, est devenu, en près de 10 ans, l'un des aliments stars des réseaux sociaux, à tel point qu'on parle au Mexique aujourd'hui de l'or vert, le Mexique qui est toujours le premier producteur mondial d'avocats.
Oui, oui, exactement. Enfin, plus d'un tiers des avocats produits sur la planète vient du Mexique. Plus précisément, l'immense majorité de la production a lieu dans un seul état du pays, le Michoacán. Il est situé à l'ouest de la capitale, le long du Pacifique, et là-bas, il y a un climat chaud et très humide. Et quand on parle d'un boom d'avocats, eh ben, en fait, c'est tout à fait ça. En 2021, le Mexique a produit 2 442 000 tonnes, et c'est plus du double qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, plus de la moitié de cette production est destinée à l'exportation, principalement vers les États-Unis, puis le Canada et l'Europe. Et puis, il faut bien répondre à la demande parce que, par exemple, la consommation d'un avocat moyenne d'un Américain, elle a triplé ces 15 dernières années. Elle représente aujourd'hui environ 4 kilos par an.
4 kilos par an et par Américain. Les États-Unis sont les premiers importateurs d'avocats mexicains. Et d'ailleurs, quand ils décident de ne plus importer d'avocats mexicains, c'est la crise totale. C'est ce qui s'est passé, je crois, en février 2021, quand le gouvernement américain a suspendu les importations d'avocats mexicains pendant quelques jours. Et dans les deux pays, ça a pris des proportions presque diplomatiques.
Exactement. En fait, les Américains ont eu très peur parce que à la veille du Super Bowl, il y a une pénurie d'avocats. Alors qu'on sait bien que la tradition, c'est regarder les matchs de foot devant un apéro bien garni avec un guacamole. En fait, le Super Bowl, c'est vraiment une période clé pour les vendeurs d'avocats. À ce moment-là, environ 50 millions de kilos sont consommés. Mis à part ça, il faut avoir en tête que les exportations d'avocats au marché américain, ça représente une source de revenus immense pour les producteurs mexicains. On parle de 3 milliards de dollars en 2021 et ça représente aussi 300 000 emplois, à tel point que du coup, suspendre ce marché, c'est un outil de pression très fort sur le Mexique et les États-Unis l'ont bien utilisé en février dernier quand un agent douanier américain a reçu des menaces de la part d'un groupe criminel justement sur l'avocat.
Et là, c'est la face obscure de l'avocat, tant sur le volet social qu'environnemental.
Oui, absolument. En fait, le Michoacán, c'est un État qui a été durement frappé par le crime organisé. Au moment du boom de l'avocat, les cartels y ont vu un intérêt financier. Ils ont investi la filière. Dans les années 2010, c'est un véritable cartel de l'or vert qui se forme. Et depuis, la zone est en permanence sous tension. Les producteurs sont victimes d'extorsions, de violences. L'avocat, c'est aussi le responsable d'un désastre environnemental à cause de la déforestation massive. Et puis, quand on sait qu'il faut 1000 litres d'eau pour produire un kilo d'avocat, sa production, elle est clairement pas soutenable sur le long terme. Et pour augmenter les rendements de ces cultures intensives, les arbres sont très souvent traités avec des pesticides, dont la plupart sont même interdits en Europe.
Merci à vous, Gwendolina Duval, en direct de Mexico. Pierre Saint-Garavello et Sylvain Venner, vous êtes historiens tous les deux, vous publiez L'épicerie du monde, la mondialisation par les produits alimentaires du XVIIIe siècle à nos jours, aux éditions Fayard. Et je le rappelle, c'est près de 90 produits ou plats que vous avez fait raconter par des historiens. De quoi est emblématique cette histoire de l'avocat mexicain pour vous, Pierre Saint-Garavello?
Oui, ce qui vient d'être dit est très juste hein, sur les dégâts environnementaux et sociaux avec ce rôle croissant des cartels, notamment dans le contrôle de la production, puisque les enjeux financiers sont désormais déterminants. Il faut dire que les dégâts environnementaux concernent d'autres continents, parce que les avocats mexicains sont dirigés vers les consommateurs états-uniens, mais les Européens, à commencer par les Français, consomment des avocats provenant d'Israël et d'Afrique. Et donc en Afrique, par exemple, au Kenya, eh bien, cette production d'avocats extensive mais aussi avec des technologies intensives, eh bien, cette déforestation dont on a parlé réduit de manière drastique l'espace, l'habitat des éléphants, par exemple. Et donc, ça pose de gros problèmes dans ce domaine particulier. Alors, sur l'avocat et le guacamole, qui est le plat emblématique
qu'on mange avec des chips à la mexicaine.
C'est un très bel exemple d'un plat très ancien, puisqu'en fait, les historiens ont retrouvé dans les chroniques unique aztèque trace du guacamole, qui est un terme nahuatl, aztèque donc, dès le XIIIe siècle. Hein. Et ce plat est découvert par les conquistadors, évidemment, dès le XVIe siècle. Hein. Mais il n'est pas réapproprié par les Européens. Le guacamole ne marche pas en Europe, même si on le connaît, alors dans la péninsule ibérique, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut attendre le XXe siècle, et notamment la deuxième partie du XXe siècle, pour qu'il soit adopté par les États-Unis, puis par le reste des Occidentaux, et notamment les Européens. Et pour que ce guacamole devienne populaire, eh bien, on retrouve le marketing et le récit mythologique des origines. Eh bien, les promoteurs du guacamole expliquent que c'est espagnol. Ça n'est pas mexicain, parce qu'à l'époque, ça n'est pas vendeur. Aujourd'hui, évidemment, on peut promouvoir, dans certains cadres, les origines ethniques des produits. Mais disons qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on explique que eh bien, le guacamole est ibérique, que les Espagnols, d'ailleurs, ont participé à la création, ce qui est vrai, de la recette en ajoutant les oignons et le citron. Bon. Et c'est comme cela que le guacamole eh bien, commence à se diffuser un peu partout.
Et Sylvain Venner, vous qui habitez à New York, vous êtes bien placé pour savoir que si on propose aux Américains un truc un peu douceâtre, hein, comme la purée d'avocat avec une petite épice, et qu'en plus il y a ce côté crispy avec les chips, eh ben, là c'est bingo, non ?
Bah dans les États-Unis d'aujourd'hui, ça fait un carton, c'est sûr. Mais il y a aussi une autre dimension du guacamole, enfin de l'avocat de façon générale, c'est qu'on l'a adapté assez facilement à d'ailleurs ce qui était une partie du Mexique autrefois, qui est la Californie. Donc en Californie, on a également de grands vergers d'avocats, hein, ce qu'on appelle aussi parfois la poire d'alligator. Et ça, c'est aussi un des éléments, malgré tout, de la réussite de l'avocat, parce que cet avocat, on va le retrouver sous la forme de guacamole, comme on l'a dit. Actuellement, les toasts à l'avocat. Mais il y a une autre histoire de l'avocat qui est intéressante du point de vue qu'on raconte dans le livre. C'est la façon dont les immigrants japonais en Californie ont adapté le maquis japonais au goût californien en, dans un premier temps, enlevant le poisson cru, le thon cru qui formait le maquis, et en le remplaçant par de l'avocat, ce qui correspondait davantage au goût californien de l'époque. Là, je vous parle, on est aux alentours de 1960. Et créant ainsi ce qu'on va retrouver, nous, un petit peu, dans tous nos restaurants, ce qu'on appelle les California Rolls, c'est-à-dire cette adaptation du goût japonais en Californie, en utilisant pour ça la poire d'alligator, l'avocat.
Alors, on va passer maintenant du Mexique à une autre cuisine d'exportation massive et très largement aussi adaptée lorsqu'elle voyage, la cuisine coréenne.
8 milliards de voisins.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins.
Entre nous, là, entre les voisins. Hein?
Ouais, c'est ça.
Direction la Corée, ou presque, maintenant avec Nicolas Roca, qui vient de nous rejoindre dans le studio de RFI à Paris. On est ravis de vous accueillir en chair et en os, Nicolas.
Ouais, ravi d'être là, Emmanuel.
Vous êtes de passage en France, vous êtes le correspondant de RFI à Séoul. Si on parle aux voisins du monde de kimchi, de bibimbap, je ne sais même pas si je le prononce
bien.
C'est ça, de bulgogi.
Bulgogi.
Tteokbokki. Ouais, on va vite se perdre, hein, parce que on a quand même tous du mal à prononcer ces noms de plats coréens qui sont pourtant maintenant exportés presque partout dans le monde entier, de Dakar à New York, en passant par Londres, par Paris. Le nombre de restaurants coréens a explosé. C'est un succès qui s'inscrit dans la stratégie globale des autorités coréennes de promotion de la marque Corée à l'étranger. Après les séries coréennes, les K-dramas, la musique coréenne, la K-pop. Eh bien, on a la gastronomie coréenne, la K-food, qui est aussi partie à la conquête du monde pour le plus grand régal de vous-même, Nicolas, parce que je sais que vous adorez ça.
C'est vrai.
Et vous êtes... Alors, effectivement, rappelez-nous peut-être déjà à quoi ressemble cette cuisine coréenne qu'on peut manger très facilement sur le pouce, comme ça, hein, debout.
Alors, il y a la cuisine coréenne qu'on peut manger très facilement et il y a la cuisine, traditionnelle que l'on mange ensemble, parce que la cuisine coréenne, avant tout, ça se partage. Il y a des plats principaux. Alors, ça peut être de la viande marinée, parfois en soupe, des crêpes de fruits de mer. Il y a aussi les pieuvres avec les tentacules qui sont encore mouvantes, qu'on assaisonne d'une sauce au sésame. Mais l'un des marqueurs de la cuisine coréenne, que l'on ne retrouve d'ailleurs pas forcément à l'étranger, c'est ces nombreux petits accompagnements qui vont venir autour des plats. On appelle ça des panchan en coréen. Alors là, ça peut être des pousses de soja, d'épinards ou bien évidemment le fameux kimchi, ce chou ou bien ces autres légumes fermentés à la mode coréenne qui, comme la gastronomie du pays, est censée avoir au moins 2000 ans d'histoire.
Sauf que pendant longtemps, personne ne s'intéressait à la cuisine coréenne. Elle était complètement effacée par les sushis japonais, par les nouilles chinoises ou encore par les nems vietnamiens.
Et oui, parce que la Corée avait la réputation d'avoir une gastronomie assez pauvre, assez peu raffinée. C'était aussi pendant assez longtemps un pays pauvre avec beaucoup de plats qui étaient à base de fermentation, assez inspirés de la cuisine chinoise, il faut le dire. Mais durant les deux grandes dynasties coréennes, Koryo, Joseon, il y a une cuisine royale, noble, qui s'est développée. Elle restait tout de même assez marginale et réservée à une élite. À cela, on peut aussi ajouter la période de la colonisation entre 1910 et 1945 où l'occupant japonais exportait massivement le riz du pays et freinait son développement et du coup le développement de sa cuisine.
Mais alors comment la cuisine coréenne est parvenue à transformer son image un peu de cuisine paysanne en gastronomie raffinée et désirable finalement ?
Eh bien en fait les choses ont évolué assez rapidement à partir des années 1980 au moment où les conditions de vie se sont globalement améliorées en Corée du Sud et c'est à ce moment-là qu'il y a des éléments de la cuisine royale qui sont réapparus progressivement dans l'alimentation quotidienne des Coréens. L'arrivée massive de touristes aussi à l'occasion des Jeux Olympiques de Séoul en 1988 a aussi joué un rôle très important car le succès du kimchi notamment lors de l'événement a accéléré la volonté des autorités de faire connaître cette cuisine coréenne à l'étranger tout en préservant une forme d'identité gastronomique. L'objectif était de se différencier des cuisines japonaises, chinoises déjà très connues tout en mettant en avant des plats simples et faciles à identifier. Et puis il y a le rôle de la Hallyu, cette vague culturelle coréenne qui a contribué à populariser cette cuisine à l'étranger grâce aux séries, aux films coréens. La gastronomie du pays a commencé à s'étendre hors de la péninsule. Et puis il y a eu un institut, l'Institut pour la promotion de la nourriture coréenne qui a été créé. C'est une agence gouvernementale qui a pour mission d'établir ce qu'est l'authentique cuisine coréenne et à la diffuser à l'étranger.
Ouais, alors justement, comment est-ce que la cuisine coréenne s'exporte concrètement ? Est-ce qu'elle reste plutôt fidèle à ce qui est mangé dans le pays ? Est-ce que vous-même, Nicolas, vous tombez à la renverse quand vous allez dans un restaurant coréen à Paris ?
Alors pour être honnête, j'évite d'aller dans les restaurants coréens à Paris parce que je préfère en profiter quand je suis sur place, mais quand je me suis perdu quand même quelques fois, eh bien c'est un peu à l'image de ce que peuvent penser les Napolitains quand ils voient des pizzas à l'ananas en dehors d'Italie. Eh bien c'est un peu la même chose avec les plats coréens qui s'éloignent de leur forme originelle. Par exemple, il y a un plat très emblématique de la ville de Cheongju dans le sud du pays, le bibimbap, un riz qui est mélangé à différents légumes. Et dans un des restaurants parisiens qui propose la spécialité, on peut trouver un bibimbap avec de la mozzarella ou bien de l'avocat. Oui. Alors quand j'ai transmis l'information à mes amis en Corée, vous pouvez vous douter qu'ils étaient assez horrifiés de la nouvelle. Mais de façon générale, la nourriture coréenne à l'étranger s'est adaptée au palais étranger avec une utilisation plus mesurée de la sauce soja, de la pâte de soja ou de la pâte de piment, ces marqueurs très forts. Et puis il y a des plats simples comme le bulgogi, le barbecue coréen ou encore une soupe de poulet ou bien des nouilles froides ou les tteokbokki, ces petits gâteaux de riz qui ont été promus par les autorités car elles considéraient qu'ils étaient assez simples à consommer et à identifier pour les étrangers. Puis en Europe, la cuisine coréenne est également servie avec entrée, plat et dessert, un concept qui n'existe absolument pas originellement dans le pays.
Merci beaucoup Nicolas Roca, vous nous avez mis en appétit.
Oui, c'était très intéressant parce que c'est vrai que ça pose la question de l'originel et du dérivé, c'est-à-dire des influences croisées entre la cuisine dite traditionnelle coréenne et puis celle de ses voisins, la Chine, le Japon, etc. Et de ce point de vue, il y a un exemple très intéressant parmi ces plats nationaux coréens qui est le budae jjigae, qui est en français, ça s'appelle le ragoût de l'armée. Et c'est un plat très populaire en Corée qui en fait est apparu à l'occasion de la guerre de Corée entre les États-Unis et les Coréens entre 1950 et 1953, au moment où les Coréens sont affamés par la guerre, les États-Unis vont déverser des centaines de milliers de cannes de spam. Vous savez, le spam, cette viande de porc en conserve. Hein. Et les Coréens vont se l'approprier, l'intégrer en y ajoutant les ingrédients que vous avez évoqués, notamment le kimchi, des nouilles,
du tofu. Donc c'est des conserves pour les soldats, en fait.
Des conserves pour les soldats. Ouais. Et sauf que, en fait, les Coréens se sont tellement appropriés avec ferveur ce spam qui est totalement étranger. l'étranger, qu'ils en font encore aujourd'hui un des cadeaux privilégiés lors des fêtes, et que ce plat est vraiment extrêmement apprécié par l'ensemble de la population. Donc c'est vraiment intéressant de travailler sur ces influences croisées, ces échanges, ces interactions qui nous font dire que, y compris les plats nationaux, ou certains plats nationaux du moins, eh bien, résultent d'influences étrangères.
Il y a aussi maintenant une émigration coréenne. Cette émigration coréenne, elle participe de la diffusion de la gastronomie coréenne. Alors je vois ça très très bien à New York, au niveau de la 32e rue, il y a Koreatown, qui est un des endroits de New York aujourd'hui où on mange le mieux. Et pour confirmer ce qui a été dit tout à l'heure, ce qui marche le mieux évidemment aux États-Unis, c'est le barbecue coréen, qui renvoie à des pratiques qui sont ici nord-américaines et qui se diffusent vraiment déjà tout autour de Koreatown, mais aussi ailleurs dans la ville de New York.
Le fameux barbecue américain, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a tellement de choses dans votre livre, je voudrais quand même vous poser une dernière question. Pierre Saint-Garavelou, demain, quels seront finalement les succès fulgurants planétaires, le steak végétal, les insectes en chips, est-ce que le leadership américain va définitivement laisser la place à d'autres soft power? On parlait du soft power sud-coréen, mais on le voit bien, le guacamole n'est pas le soft power mexicain non plus, c'est pas parce qu'on exporte un plat que ça en fait un leadership. Donc qu'est-ce que vous imaginez pour demain, Pierre Saint-Garavelou?
Ah, c'est très difficile de répondre à cette question, mais ce qui est certain, et comme vous le suggérez dans votre question, c'est qu'il y a de grandes tendances qui se dessinent, notamment le végétarisme, le véganisme sont des tendances qui marquent les sociétés occidentales hyper productivistes, qui ont commencé par marquer d'abord les jeunesses et puis les classes les plus aisées, et qui commencent à se diffuser aussi dans le reste de la population. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a là un retour à des pratiques extra-occidentales. Quand on pense évidemment au fait que plus d'un tiers des Indiens de l'Union indienne cette fois sont végétariens pour des raisons religieuses, ça n'est pas une nouveauté évidemment pour une grande partie des populations du monde, mais ça explique pourquoi, par exemple, y compris dans la jeunesse française, eh bien on a adopté le houmous comme un des plats pas chers et sains qu'on consomme de plus en plus.
La célèbre purée de pois chiches, il faudra revenir pour nous en parler, pour nous parler aussi de ces concurrences, hein, la guerre du couscous entre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, même la Mauritanie, et comment chacun tente aussi de s'approprier l'identité culturelle de tel ou tel plat. En tout cas, il faut vous lire tous les deux, Pierre Saint-Garavelou, Sylvain Venner, vous signez cet ouvrage collectif extrêmement riche, L'épicerie du monde, la mondialisation par les produits alimentaires du XVIIIe siècle à nos jours, et c'est publié chez Fayard. Et merci à vous, Nicolas Roca, de nous avoir fait découvrir l'extrême richesse de cette gastronomie coréenne, un peu dénaturée quand elle passe les frontières, on l'a bien compris. Merci à vous. On se quitte avec Las, un musicien sénégalais qui a grandi en se frottant aux sonorités afro-cubaines et dans les soirées aussi de rumba congolaise organisées par ses frères, parce que la musique voyage évidemment au moins autant que les aliments. Teji lañ la may ale bu yarunga ñun de leer nañu fi la dan xare yow gis nañ la fa fi la dan sentu yow fek nga ñu fa da nga don ku yaru in ni roy da nga don ku bax ak sa di ko bi dangay sey
8 milliards de voisins, c'est fini.